Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Londres, la radio spéciale résistance. Je suis Monsieur Thibault, je serai le présentateur spécial de cette émission. Dans cette émission, nous allons vous raconter la vie de certains résistants et vous parler de la vie à cette époque. Il y sera présenté une fiction racontant un événement nantais, suivi d'une conférence par le professeur Paillard sur une résistante de 1939-1945. L'ensemble des interventions sera ponctué par la lecture des Enfants de la Résistance, bande dessinée réalisée par messieurs Herse et Dugommier, lue par monsieur Périgot. Nous remercions les éditions Le Lombard de nous avoir permis d'utiliser cette œuvre. Mes chers collègues, je vous laisse la parole.
Dans cet extrait, François et son ami Eusèbe se trouvent dans un grenier. Ces derniers y sont cachés pour ne pas se faire repérer par les nazis et impriment des tracts qu'ils vont ensuite distribuer dans la ville. Durant ce passage, les tracts contiennent les écritures suivantes. Une grande armée se prépare en secret pour reconquérir la France, tome 1, page 29.
Les gens voulaient croire à une normalisation de la situation. Il fallait les secouer.
Les sortir de leur torpeur et porter l'espoir. Mais lorsqu'on n'est que deux enfants, on a peu de poids. Il faut trouver de l'aide ou bluffer.
Agir comportait pourtant le risque de s'attirer les foudres des Allemands.
Dans un autre passage, une femme vient de se faire renverser par des soldats allemands en camion. François et Eusèbe vont donc imprimer de nouveaux tracts avec les mots suivants. Les soldats allemands font exprès des accidents de la route. Ils tuent des civils.
Dame, la violence routière semble devenir un comportement de plus en plus courant chez l'occupant. Des camps ont été signalés un peu partout.
Nous sommes à Nantes le 10 novembre 1940. Les Allemands sont à Nantes depuis le 19 juin et les nouvelles règles de l'occupation ont été installées. Nous allons suivre le parcours de deux jeunes adolescents, l'un âgé de 19 ans et l'autre plus jeune de 16. Comme je le disais, nous allons les suivre dans un acte de résistance peu commun. Ils vont planter le drapeau français sur la cathédrale de Nantes. Je vous laisse à présent avec eux.
Bon, ça y est, Michel, t'as fini tes cours ?
Oui, ça y est, j'ai fini. Et toi, tu as préparé le matériel ?
Chut, t'as pas vu qu'il y avait des poches derrière nous ?
Oui, et à côté un pétainiste.
Ah oui, encore un partisan de Pétain. Il me dégoûte, ce gars-là. Toujours à dire qu'il fait que renforcer la France. Pff, toujours à la donner aux Allemands, lui.
Oh, allez, arrête de râler, avance. Je pense avoir une petite idée pour ce soir.
Vraiment ? J'espère que c'est pas encore un petit truc de rien du tout.
Oh, ça non, ce n'est pas un petit acte de rien du tout, comme tu le dis. On a de grandes chances de mourir. Mais si on y arrive, alors là, tu peux être sûr qu'on entendra parler de nous.
Bon, allez, on y est. Nous voici de retour chez moi. Viens, on monte dans ma chambre. Bon, explique-moi ce que tu veux faire.
Accroche-toi. On va planter notre drapeau.
Et où ça, sur le toit de la boulangère ?
Je serai toi, je rigolerai moins. On va planter le drapeau sur la cathédrale.
Quoi ? T'es pas sérieux ?
Si, si, la cathédrale de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Elle est même classée monument historique depuis 1862. Sa construction a duré 457 ans, de 1434 à 1891. Tu m'étonnes, elle fait 63 mètres de haut.
Oh, c'est bon, on n'est pas en cours, là. Tu peux arrêter de faire ton dictionnaire.
D'accord, d'accord. Bon, je vais te dire le plan. C'est à l'heure du couvre-feu que nous allons nous glisser en douce dans la cathédrale par un échafaudage. Tu sais, celui à l'arrière, qui n'est pas trop surveillé de nuit, avec des cordes et des lampes de poche. Avec la corde, on pourra se hisser facilement au paratonnerre.
Facilement, facilement, ça reste dangereux, hein.
Oh, tu vas pas faire ta poule mouillée ?
Allez, continue, faut que j'aille faire mes devoirs.
Bah, j'ai fini. Tu peux aller faire tes devoirs. On se retrouve tout à l'heure, à 21h.
Ok, à tout à l'heure.
Michel Daba, Christian de Mondragon rentrent chez eux. Ce n'est que quelques heures plus tard que nous retrouvons nos deux héros au pied de la cathédrale prêts à réaliser l'exploit.
Allez Michel, dépêche-toi.
Calme-toi, il ne faut pas qu'on s'en précipite. Tu as tout ?
Oui, c'est bon, on peut y aller.
Ok, je pars devant, on se retrouve là-bas.
Oui, tu as raison, il vaut mieux qu'on ne circule pas à deux.
A tout de suite, fais attention.
A toutes.
Nous retrouvons nos deux héros au pied de la cathédrale.
Thank you.
Ah bah tu arrives enfin. Elle est pas belle cette cathédrale. Quand je pense que demain c'est le 14 juillet et qu'il y flottera notre drapeau.
C'est clair. Ah et désolé pour le retard. J'ai croisé des boches. J'ai eu chaud, je me suis planqué à Strasbourg.
Bien joué. Bon, on y va ?
C'est parti, allons-y.
Michel, je crois que j'ai un petit problème. Impossible d'accrocher la corde, j'ai tout essayé.
Dans ce cas-là, il ne nous reste qu'une solution. On va grimper à main nue.
Michel, tu es fou, c'est du suicide.
Écoute, Christian, c'est ça ou rien.
Bon, ok.
Allez, on fait ça vite et n'aie pas peur.
Oui, oui.
Allez, Christian, on va y arriver.
Je sais, je sais.
Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça.
Bon, allez, fixe-moi ça et on file. Sinon, on est foutus.
On plante tous les deux. T'es prêt ?
Quand tu veux.
Un.
Deux.
Trois.
Allez, c'est fait. Maintenant, on file.
Ouais, allez, on se rejoint demain.
Ok, à demain.
Nous retrouvons nos deux Nantais le lendemain de leur exploit.
Christian, on a fait la une.
Oui, j'ai vu. Bon, allez, n'aie pas peur. Tout va bien se passer.
J'ai quand même un peu peur. On va finir par se faire choper à force.
Effectivement, Michel Daba avait raison. Le 22 octobre 1941, après un nouvel acte de résistance, nos deux héros se firent dénoncer, puis capturés par les Allemands. Christian de Mondragon fut relâché du fait de ses 17 ans, mais Michel Daba se fit fusiller sur ordre d'Hitler. Quant à Christian, il nous quitta en juillet 2008. Dans un autre passage, les deux enfants vont ouvrir la vanne de l'écluse et laisser passer l'eau des dernières pluies. De ce fait, la quantité d'eau, bien trop grande, va provoquer un éboulement. Les Allemands vont alors ordonner aux Français vivant dans cette ville de nettoyer dans sa totalité les dégâts causés par cet éboulement. Ainsi, les Français vont se rendre compte de la difficulté qu'il serait pour eux de vivre avec les Allemands. Tome 1, page 19.
Il y a un passage dans les ronces ici.
Mais quoi, à la fin ? Comment connais-tu tout ça ? Aïe !
C'est là ! C'est le collecteur des drains qui assèche tout ce flanc de la colline. Et si je ferme cette vanne, toute l'eau des dernières pluies va stagner dans les terres. Très mauvais ça. Le capteur a été placé lors des travaux de creusement pour prévenir les glissements de terrain vers le canal. Et ça, les Allemands l'ignorent.
Bonjour, messieurs, mesdames, étudiantes, étudiantes. Vous allez assister à une conférence du professeur Paillard sur le thème de la résistance dans l'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Veuillez l'accueillir chaleureusement. N'hésitez surtout pas à poser des questions pendant la conférence.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui parler d'Angèle Bettini Del Rio. Angèle est née en 1922. Elle était surnommée Angelita. Elle rejoint les jeunesses communistes en 1937.
Excusez-moi, professeur.
Vous avez une question ? Allez-y.
Oui, qu'est-ce que c'est les jeunesses communistes ?
C'est une organisation politique d'adolescents qui se reconnaissent dans les idées du Parti communiste français, tout simplement. Les idées communistes sont définies pour la première fois par le philosophe allemand Karl Marx. On pourrait les simplifier en la création d'une société de partage où tout est mis en commun et où il n'y a pas de classe sociale. Je disais donc que Angèle participa, le 5 novembre 1940, à l'âge de 18 ans, au premier acte de résistance à Toulouse et l'un des tout premiers en France. Lorsque le maréchal Pétain entama son parcours en zone libre.
Oui, professeur, qu'est-ce que la zone libre ?
Durant la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que la France est coupée en deux par une ligne horizontale de démarcation. D'un côté, au nord, la zone occupée par les Allemands depuis l'armistice du 22 juin 1940. De l'autre côté, au sud, la zone dite libre. La zone libre, comme l'ensemble de la France, est sous l'autorité du régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. C'était... À ce moment-là, sa première visite officielle depuis l'armistice. Je parle bien évidemment du maréchal Pétain. Une grande équipe dont la majorité était mineure inventa un système pour lancer des tracts avec inscrit « La jeunesse communiste de France ne veut pas du maréchal Félon ».
Professeur, mais pourquoi le maréchal Pétain est appelé le maréchal Félon ?
Il faut savoir que le maréchal Pétain est un homme d'État français. Avant 1940, celui-ci est connu et apprécié des Français. En effet, il est considéré comme un héros de guerre depuis sa victoire à Verdun en 1916. Lorsque le 18 mai 1940, le maréchal est nommé ministre d'État, la France est déjà submergée par la blitzkrieg d'Adolf Hitler. Il signe donc un armistice avec les Allemands. À partir de ce moment, le maréchal est traité comme un félon, c'est-à-dire un traître, car il s'allie avec l'ennemi. Je disais donc, les tracts sont lancés du haut d'un immeuble. 13 rue Alsace-Lorraine à Toulouse. Ils sont projetés dans les airs, pile au bon moment, sur la voiture du maréchal. Cette action fait immédiatement la une des journaux locaux. Des jeunes adultes ont osé résister. Suite à cet acte, Angèle fut arrêtée par les autorités locales le 20 avril 1940.
Mais comment Angèle a-t-elle pu être retrouvée ?
Il faut savoir que durant cette période, les personnes qui appartiennent à des organisations communistes sont surveillées de très près, presque à l'obsessionnel par les autorités locales. Je disais donc qu'Angèle est arrêtée en 1940. Elle fut envoyée une semaine après son acte de résistance dans la prison de Saint-Michel avec ses amis complices. Angèle y est tabassée et elle subit beaucoup de violences physiques. Après un court passage en prison, elle est jugée par un tribunal militaire et acquittée. Cette dernière est réarrêtée en avril 1941, cette fois comme immigrée espagnole républicaine. Elle sera déportée dans le camp du Recebedou, proche de Toulouse. Angèle sera ensuite envoyée dans plusieurs camps entre 1941 et 1945.
Mais dans quel camp et prison Angèle a été déportée ?
Après son passage au camp du Recebedou, elle fut déportée successivement dans les camps de Rieucros, en Lozère, puis Brins, dans le Tarn, et en juin 1944, alors que les Alliés débarquent, elle est emmenée au camp de Goers, dans les Pyrénées-Orientales, d'où elle s'échappe le 28 juillet avec l'aide d'un gardien. En 2009, le maire de la ville de Toulouse posa une plaque sur le mur de l'immeuble d'où Angèle et ses amis avaient jeté les tracts. Cette dernière a été décorée de la Légion d'honneur en 2010. Elle est malheureusement décédée à l'âge de 95 ans, le 7 novembre 2017, presque le jour du 77e anniversaire de son acte héroïque. Les dernières années de sa vie, Angèle Bettini Del Rio les a consacrées à son devoir de mémoire. Cette dernière est passée dans les écoles et a répondu à de nombreuses interviews afin de mettre au jour les injustices de la guerre. Merci beaucoup.
Merci, professeur.
Merci, professeur, pour cette brillante émission. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt.
Dans un autre passage, François et Euseb vont rencontrer une petite fille parlant allemand. Ces derniers vont donc penser en premier lieu que la petite fille en question était une Allemande, mais cette dernière va leur certifier être belge. Ils vont ensuite demander confirmation au père de François, qui est enseignant. Ce dernier leur dira qu'il s'agit bien d'une Belge. Les deux enfants vont donc, grâce à ça, apprendre que les gens qui parlent allemand ne sont pas forcément nazis, ce qui va très grandement les aider dans leurs actes. Tome 1, page 9.
Qu'est-ce que tu fais là alors ?
Ich bin verloren.
Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
Je pense que c'est de l'allemand, François.
Une Allemande ?
Nein, je veux être belge !
À d'autres, les Belges, ils parlent belge, pas l'allemand.
Mais doucement, François, ces gens sont partis, elle est vraiment toute seule, François.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?
Dans un autre passage, Marcel Guillet, le père de François, vient de se faire exécuter par les Allemands, car ce dernier avait résisté. Un officier allemand a alors dit à François qu'il ne voulait plus entendre parler de son père. François va alors décider de renommer, à l'aide de tapisseries, la rue où se trouvait la base allemande dans laquelle le père de François a été exécuté, puis dans toute la ville, rue, chemin, impasse ou passage Marcel Guillet. Tome 3, page 11. Mais tu n'as pas peur de représailles de la part des Allemands ?
Il n'y en a pas eu suite à la manifestation du cimetière.
T'as raison, ils ne peuvent tout de même pas punir tous les mouvements d'humeur de la population.
Ce fut la première fois depuis la mort de mon père que je vis ma mère sourire.
Merci mes chers collègues, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que l'émission vous a plu et au revoir.